L'in que vous allez suivre est une rediffusion.
Music du monde. Laurence Aloua. Tegui Mfatrore. Music du monde sur RFI.
Il y a 45 ans, en 1974, la révolution des œillets au Portugal sonnait le glas de la dictature et du même coup celui de son empire colonial. Le pays et la jeunesse étaient épuisés par les guerres contre les mouvements indépendantistes du Cap-Vert, de la Guinée-Bissau, du Mozambique et de l'Angola. Cette décennie troublée fut aussi très riche des musiques qui ont accompagné à mots couverts, puis à grands coups de slogans, les luttes de libération et leurs triomphes. Une période, du reste, qui continue d'inspirer les artistes. Vladimir Cagnolari, le bien nommé, a recueilli les témoignages de José da Silva, le producteur légendaire de Cesária Évora, du chanteur angolais Bonga, des membres du groupe Super Mama Jumbo de Guinée-Bissau, de ceux du groupe Os Tobairos du Cap-Vert et du pianiste cubain Omar Sosa, envoyé avec les troupes cubaines en Angola. Vladimir!
Bonjour à ma chère Laurence.
Oui, c'est moi.
Ce qu'il nous faut, c'est de l'action. En vérité, je te le dis, pour battre le froid de l'hiver, pour étancher la soif de celui qui a chaud, eh bien rien ne vaut de se replonger dans l'enthousiasme de ces années qui ont suivi les indépendances. Une époque pleine de rêves et surtout pleine de musique, comme celle du Super Mama Jumbo, l'orchestre mythique de Guinée-Bissau. Oh.
C'est un des tubes du Super Mama Jumbo, un titre enregistré en 1979 à Lisbonne, 5 ans après l'indépendance de la Guinée-Bissau, mon petit lapin.
Oui, l'orchestre était le chouchou du public en ce temps-là, mais aussi du premier président bissau-guinéen, Luiz Cabral, qui l'emmenait régulièrement dans ses tournées. Il était loin, le temps de la lutte, celui des guerres de libération, encore plus loin, celui de la surexploitation des colonies portugaises, commencée 5 siècles plus tôt. Retour retour en arrière. Au milieu du 15e siècle, les Portugais sont les cadors de la navigation autour de l'Afrique. Ils reconnaissent les côtes, toujours plus au sud du continent, et ils y laissent des padraos, ces stèles de pierre qui disent « Ouais, ouais, c'est moi le premier ».
Alors on commence par des pierres, après on installe les comptoirs, on envoie les missionnaires, puis les militaires, bref, le cortège habituel de la colonisation.
C'est ça, mais n'allons pas trop vite en besogne, non. Les Portugais, avant la colonisation, font d'abord du business, et en l'occurrence, celui des esclaves. Et là encore, ils sont les premiers. Ces esclaves viennent notamment du golfe de Guinée, de l'ancien royaume Congo, de Sénégambie et de l'actuelle Guinée-Bissau. Ils sont envoyés au Cap-Vert, au large du Sénégal. L'île de Santiago, la plus grande de l'archipel, devient un centre de tri avant la traversée de l'Atlantique. Destination ? Le Brésil.
C'est sûr. Et jusqu'au milieu du 19e siècle, les Portugais sont plus intéressés par l'Eldorado brésilien que par leurs colonies africaines. Par exemple, les îles du Cap-Vert, surexploitées, sont décimées par des sécheresses à répétition. 15 000 morts en 1903, 17 000 en 1922, autant en 1947, soit à chaque fois près de 10% de la population.
Et voilà, c'est la sécheresse, c'est la misère. Et comme l'esclavage a été aboli en 1875, eh bien, le gouvernement colonial portugais encourage l'immigration vers les États-Unis et aussi et peut-être surtout vers l'île de Saint-Thomé, autre possession portugaise au large du Gabon. Le départ, l'absence deviennent des piliers de l'identité. La saudade aussi, que tous les Cap-Verdiens un jour ont chanté.
Mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Saudade, 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 desse minha terra, Saninclau. Saudade, 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 desse minha terra, Saninclau. Mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Saudade, 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 desse minha terra, Saninclau. Saudade, 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 desse minha terra, Saninclau. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Saudade, 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 desse minha terra, Saninclau. Saudade, 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 desse minha terra, Saninclau.
Qui t'a montré le chemin, le long chemin qui mène à Saint-Thomé? Si tu m'écris, je t'écrirai. Si tu m'oublies, je t'oublierai jusqu'au jour de ton retour. Soda de ma terre, Saint-Niclo.
Cesaria Evora chantait ce qui est devenu désormais un classique. Et ce n'était pas, ou en tout cas pas seulement, une chanson d'amour ou sur l'absence de l'être aimé. Car combien de Cap-Verdiens partaient pour l'île de Saint-Thomé sans jamais être sûrs de revenir? Ils étaient contratados, comme on disait, c'est-à-dire des contractuels, envoyés pour plusieurs années travailler dans les plantations de cacao. Et sur place, dans des conditions souvent effroyables, eh bien, on déduisait de leur salaire la nourriture et l'hébergement, si on peut parler d'hébergement, qui leur était fourni par le planteur. Et à la fin, il ne restait aux Cap-Verdiens presque plus rien, à part la nostalgie de leurs îles d'origine.
Un peu comme les engagés qui étaient venus d'Inde à l'île de la Réunion. Plusieurs dizaines de milliers de Cap-Verdiens partirent comme celui de la chanson et firent de Saint-Thomé le premier producteur mondial de cacao. Amer le cacao.
Du, du galinha, du. galinha, diz que eu, ai de eu, de galinha. Eu, de galinha, eu, de galinha, eu, de galinha.
Galinha, j'ai la nostalgie de Judy Galinha, chantait en créole bissau-guinéen José Carlos Schwartz, célèbre leader du Kobiana Jazz de Guinée-Bissau. Judy Galinha, c'est l'île aux poules, au large de Bissau, là où le régime fasciste portugais dirigé par Salazar envoyait ses opposants portugais justement. Mais on y envoie aussi les militants africains qui se battent pour l'indépendance, comme justement le chanteur Zé Carlos Schwartz.
En matière de prison, le Cap-Vert ne fait pas exception. Sur l'île de Santiago, en 49, s'ouvre le pénitencier de Tarrafal. C'est dans cette petite ville que naît en 64 le futur chanteur Mario Lúcio, qui bien plus tard deviendra aussi ministre de la culture du Cap-Vert. Longtemps, il s'est demandé pourquoi la statue de Diogo Gomes, le fameux découvreur portugais du Cap-Vert, était plus visible dans la capitale que celle d'Amilcar Cabral, le héros de l'indépendance.
Violente question.
Diogo Gomes vem com selo neta, talvez é catinha boa vista, mapa moderna, era de conquista, de quinta da tomara a sexta.
Olha, mãe, olha, mãe, olha, olha, mãe, olha, mãe, olha, olha, mãe, olha, mãe, olha, olha, mãe, olha, mãe, olha.
Passa de calma ao pacal verde, banha passado, vira futuro. Se o quente estemba a pele sucuro, qual verde que te quero ver? Oxe, lutou de esmaraço, pensa, mas foi por médio. Se história toda abanas peito, norte podia ser vaso.
Diogo Gomes est venu avec sa lunette, mais peut-être que sa vue n'était pas bonne. Oh ma mère, en arrivant au Cap-Vert, il prit le passé et en fit un futur. Ici, les gens crient « Longue vie à Cabral !» Mais Diogo a sa statue en face du Parlement, quand celle de Cabral, elle, regarde le cimetière. Quel mystère.
Et quelle misère. Les paroles sont signées Mario Lúcio pour ce Diogo et Cabral. Cabral, Amilcar Cabral, c'est le leader qui allait mener le Cap-Vert et la Guinée-Bissau à l'indépendance.
Et oui, parce qu'en 1959, alors que la plupart des pays d'Afrique sont en marche vers l'indépendance, et notamment les colonies françaises, eh bien le Portugal, lui, s'accroche à son empire. En 1959, donc cette même année, Amilcar Cabral, qui lui est né de père bissau-guinéen et de mère capverdienne, lui a tout juste 30 ans. Il est né en Guinée donc, et puis il a fréquenté l'école au Cap-Vert avant de finir ses études à Lisbonne. Lisbonne où il côtoie l'Angolais Agostinho Neto, ou bien le Mozambicain Eduardo Mondlane, qui sont eux aussi de futurs leaders indépendantistes.
Cabral devient agronome et ça va l'aider lorsqu'il rentre en Guinée à mieux comprendre les paysans qui représentent quand même 90% de la population.
Exactement. Le 3 août 1959, les Portugais répriment la grève des dockers du port de Bissau, organisée par le parti de Cabral, le PAIGC, Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. C'est alors que, devant l'échec de sa stratégie urbaine, il se tourne justement vers ses campagnes et organise une guérilla qui implique les populations. 10 ans plus tard, les 2/3 du territoire sont libérés et le PAIGC les administre pour de bon. Des écoles populaires, des dispensaires et même une réorganisation de l'agriculture.
Les Portugais ont bien du mal à contenir les guérilleros, d'autant que l'ONU, qui envoie des émissaires sur place, finit par reconnaître le PAIGC comme représentant du peuple et bientôt de l'État capverdien.
Oui, Cabral, lui, est tantôt dans le maquis, tantôt dans sa base arrière, Conakry, oui, parce que Sékou Touré lui a accordé l'hospitalité. Au front et à l'arrière, il est partout, dans toutes les bouches et dans toutes les oreilles.
Oh, Cabral.
L'indépendance, pourquoi faire ? Pour nous, d'abord, pour être nous-mêmes. Nous considérons que notre indépendance nous permettra de développer notre propre culture, de nous développer nous-mêmes et de développer nos pays en délivrant nos peuples de la misère, de la souffrance, de l'ignorance, parce que vous savez quel est l'état où nous nous trouvons après 5 siècles de présence portugaise chez nous. Pas parce que nous soyons des racistes, non, parce que nous sommes des Africains, des hommes africains, un peuple africain qui réalise aujourd'hui son droit à être indépendant, souverain, tout en ayant des rapports avec les autres peuples. Nous voulons l'indépendance pour faire chez nous tout ce que les autres ont fait chez eux. Et pour créer une vie où nous ne serons plus exploités par des étrangers, mais aussi nous ne serons pas exploités par des Africains eux-mêmes. Parce que nous ne faisons pas une liaison entre la couleur de la peau et la capacité d'exploiter les gens.
Ça, c'est l'orchestra Baobab de Dakar en mode afro-cubain. C'est vrai que les admirateurs de Cabral sont nombreux au Sénégal, d'autant que les Capverdiens y ont émigré en masse.
Et oui, le Sénégal est devenu indépendant en 1960, et les Capverdiens y sont à l'abri des sécheresses, de la famine et bien sûr de l'oppression portugaise. José da Silva, le fameux producteur de Cesaria Evora et fondateur du label Lusafrica, n'a que quelques semaines quand il débarque avec ses parents à Dakar. On peut s'y procurer des disques rebelles enregistrés par la diaspora. Et là encore, Cabral était dans le coup.
Très tôt, Amilcar Cabral a compris que par les chansons, il passait plus vite ses messages qu'en faisant des discours. Donc lui-même a missionné quelqu'un du parti pour aller créer un label à l'étranger. C'était pas possible de le créer au Cap-Vert puisque tu avais le gouvernement portugais qui était présent, le colon qui était présent. Donc il l'a envoyé à Rotterdam. Et c'est Djunga Biluka qui s'appelle, qui a créé le label, le fameux label Morabeza. Lui-même raconte, il a créé le label pour la propagande politique. Et donc, Amilcar Cabral a demandé à des auteurs d'écrire des chansons. Et c'est comme ça qu'il y a plusieurs chansons d'intervention qui sont arrivées dans ces années 70 enregistrées en Hollande.
Bonga, par exemple, a enregistré sur ce label-là son premier disque.
Voilà, Bonga a enregistré son premier disque sur ce label-là parce qu'il avait des amis capverdiens qui étaient étudiants à Louvain-la-Neuve, qui l'ont accueilli en tant que dissident et qui ont découvert qu'il chantait bien.
Fembele Madima.
ay, chamo capote. Como fara foba, mwene wando ya mwenyo. Sembele madima, wai chamo capote. Como fara foba, mwene wando ya mwenyo. Sembele madima, ay, chamo capote. Como fara foba, mwene wando ya mwenyo. Kwaputu atu monokia imamu angola wafulu mwenyo mwenye ni makutuwe watono kakia ni kuzwe lake.
Et donc ce label, puisqu'il était à l'étranger, ils diffusaient les disques, j'imagine, dans la diaspora capverdienne qui était déjà importante. Mais comment ils arrivaient ici, ces disques ?
Bah, les disques arrivaient dans les mallettes. Voilà, les gens amenaient les disques dans les valises. Et la musique, après, allait dans toutes les îles, d'île en île, les cassettes enregistrées d'île en île. Parce que, justement, le but premier de ce label, c'était de diffuser. C'était pas, si tu veux, le commerce du disque, vraiment. Hein, c'était, il fallait diffuser le maximum de messages, si tu veux, révolutionnaire.
Le 20 janvier 1973, Amilcar Cabral est assassiné à Conakry. Il n'aura pas le temps de voir un an plus tard la proclamation de l'indépendance de la Guinée-Bissau.
Son corps est rapatrié au pays et l'un des groupes fétiches des années 70, le Super Mama Jumbo, enregistre à la fin de la décennie un morceau hommage, une sorte de mausolée musicale.
Oui, Lamine Baldé et Malang Mané, qui sont deux anciens de l'orchestre, s'en souviennent évidemment. La chanson de 17 minutes s'appelle Sol Mayor para Comandante.
Forças Armadas Revolucionárias do Povo, em frente, marcha!
Dá-lhe o morso ao Sol Maior, ele voa que tu entende lá. Forças Armadas Revolucionárias do Povo, em frente, marcha! C'est moi, Lamine Baldé. E ce morso, ça, c'est resté dans l'histoire aussi, c'est resté dans l'esprit de tous les Guinéens.
Quand je chante cette chanson, moi qui ne connais pas Cabral, et que j'avais voulu par exemple connaître ce monsieur, et ce monsieur n'est pas là.
Il me semble que dans le morceau, tu décris, les paroles décrivent aussi le cortège funèbre de Cabral.
J'ai assisté le jour d'arrivée du corps de Cabral. J'étais avec Achuchi, il était à côté de moi. On regardait le défilé.
À Bissau.
À Bissau, l'arrivée du corps de Cabral. Le commandant est arrivé. Coucher de soleil. Le peuple a regardé. Le peuple a demandé. Comment un grand homme peut être dans un petit cercueil comme ça? Mais c'est vrai, le combattant ne choisit pas l'endroit de dormir.
Pincha.
1973, Cabral est mort, vive l'esprit de Cabral. Quelques mois plus tard, le PAIGC, qui a élu son assemblée populaire, proclame l'indépendance du pays, bientôt reconnue par 80 États. Les Portugais, qui n'hésitent pas à balancer du napalm, comme leurs collègues français au Cameroun quelques années plus tôt, s'accrochent encore aux villes de Guinée-Bissau. Mais les troupes sont exsangues.
Avec 35% du budget national consacré aux guerres coloniales, 8000 morts depuis le début des années 60 et près de 800 000 hommes qui ont été envoyés pour se battre dans les colonies, le Portugal est rincé. Même les hommes jeunes émigrent pour échapper au service militaire.
Oui, et quant au capitaine de l'armée, ils se rebellent et prennent le contrôle de Lisbonne. Nous sommes le 25 avril 1974. Au même moment, sur la radio catholique Renascença, retentit la chanson de José Afonso, Grande de la Villa Morena, un hymne à la résistance populaire.
Grandola Villa Morena, interprétée ici par Amália Rodrigues, signe la fin de la dictature militaire au Portugal et du même coup la fin des ambitions impérialistes du pays.
Et oui, les autorités doivent justement négocier maintenant l'indépendance. Et en septembre 1974, le Portugal reconnaît celle de la Guinée-Bissau, puis en 1975 viennent celles du Mozambique, du Cap-Vert et enfin de l'Angola.
Au Cap-Vert, pendant ces années, les Tubarões traduisaient les requins ont le vent en poupe. Georges Lima et Israël Silva font partie des piliers de l'orchestre qui a été fondé en 69 et qui est toujours actif aujourd'hui. Allez, on lève les bras pour l'indépendance. Allez!
Lève ton bras et crie ta liberté. Ça c'était juste après l'indépendance.
On a l'impression que vous étiez devenu, et Tubaro est l'orchestre un peu emblématique de ces années d'indépendance. Pourquoi ?
Bon, en 1974, le groupe a joué un rôle très important dans la mobilisation des gens pour accepter l'indépendance.
Mmh.
parce que, bon, il avait la lutte armée, non? Mais il avait ici aussi des gens qui ne voulaient pas l'indépendance et qui ont fait un travail contraire à l'indépendance. Et comme ça, il avait des gens qui ne voulaient pas, les commerçants, les gens qui avaient une certaine liaison à Portugal. Bon, il fallait faire un travail de mobilisation. C'est Touborange qui a fait ça, à travers la musique. C'est là qu'ils ont beaucoup chanté les musiques que parlaient de Cabral, que parlaient de l'indépendance, que parlaient de la souffrance des gens. Après l'indépendance, le groupe, c'était un groupe qui avait une bonne conscience, l'importance de construire un pays nouveau, un pays libre, un pays qui donnait la chance à tous les gens.
Levanta Brasso, c'était les belles années de l'orchestre au Stubalo, c'est du Cap Vert fraîchement indépendant. Ces années, elles furent beaucoup plus sombres en Angola, qui, sitôt les Portugais partis, allaient s'enfoncer dans une terrible guerre civile.
Écoutez Musique du Monde sur RFI et la suite de notre voyage dans les musiques qui ont accompagné les indépendances des pays lusophones sur le continent africain. Ça fait quand même 45 ans, c'est pas si vieux que ça.
Et nous voici justement en Angola, dans les années 60. Comme ailleurs, il y a la résistance armée des mouvements indépendantistes, et puis il y a aussi la résistance culturelle de ceux qui n'ont pas d'armes. Ceux qui résistent à l'assimilation en réhabilitant les instruments, la langue, les rythmes et les chants de leurs aïeux. Ngola Ritmos fait partie de cela. C'est le groupe que vous entendez. Son fondateur, Liceu Vieira Dias, s'est d'ailleurs arrêté en 1959 et envoyé au fameux pénitencier de Tarrafal dont on parlait tout à l'heure par les autorités portugaises. Ces autorités qui ont bien compris le potentiel subversif de ces chansons.
Le jeune Bonga, qui n'est pas encore champion d'athlétisme, gravite autour de ces groupes où se forge le sentiment national, pour ne pas dire nationaliste.
Ils sont pas venus pour nous donner la religion, le bonheur, etc., la démocratie, la paix, etc. Au contraire, donc les souvenirs que nous avons, moi étant enfant, il fallait qu'on se serre les coudes, n'est-ce pas, pour préserver quand même notre identité culturelle. Alors moi j'ai fait partie de tous ces jeunes, tu vois, et adolescents qui ont pu quand même suivre un peu les grands-parents qui nous ont appris à être, n'est-ce pas, africains de l'Angola. Et c'est avec cette expérience-là que finalement je suis devenu l'artiste que je suis. Parce qu'il y a eu un début, n'est-ce pas? Il y a eu la connaissance des instruments typiques, il y a eu la connaissance de notre philosophie propre, n'est-ce pas? Parce que les colonialistes ne faisaient pas la promotion de tout ça. Ou alors quand ils faisaient, c'était dans l'aspect un peu exotique, pittoresque, machin, etc. Donc ça ne concernait pas directement. Et bien voilà, à cause de ça que je suis devenu qui je suis, exactement.
Et justement, les grands-parents, puisque vous parlez d'eux, qui vous transmettaient cette africanité, cette angolanité,
ouais.
Comment ils le faisaient? Parce que si je dis pas de bêtises, à l'époque, les colons voulaient justement raser tout ça, faire que ça se transmette pas.
Ils nous intégraient pour qu'on devienne européens.
Et qu'est-ce que c'était, l'angolanité?
C'est déjà une manière d'être, c'est avoir sa philosophie propre, c'est avoir sa manière de manger, c'est avoir ses coutumes, ses costumes, sa manière, tout. Enfin, il y a l'éducation même, n'est-ce pas? Les exemples des uns des autres, par exemple, la manière d'exister, pas imiter. Par exemple, en Europe, on laisse tomber les vieux, on les met dans les maisons de retraite, machin, etc. Nous, non, on vit avec eux. Ils sont chez nous à la maison, et en plus, c'est une espèce d'encyclopédie qui nous enseigne, qui nous apprend des choses. Donc, déjà, cette qualité-là, parce que c'est une qualité de nos jours, n'est-ce pas? Donc, cette façon-là de vivre, malheureusement, on n'a pas beaucoup écrit des livres comme ça. Nous sommes comme ça par nature. Donc, c'est plutôt chercher ce que nous sommes effectivement. Alors, les vieux, ils ont beaucoup de choses à dire.
Oh, moi, dans la ouais. chala mwanga lawe zala yamye mwanga lawe zo yamye
Il n'y a pas d'Africains qui n'ont pas eu cette révolte. Tu vois, du lendemain, il dit, écoute-moi, il faut que je sois moi-même, il faut que je suis le mien. On veut avoir son histoire, on veut raconter sa réalité comme font tout un chacun.
Musique du monde sur RFI.
Le duo Missoso chantait ici le MPLA, le mouvement populaire de libération qui proclama l'indépendance de l'Angola en novembre 75. Oui, c'est le MPLA qui l'a proclamé parce que à l'époque, il tient la capitale, Luanda. Mais il se bat contre d'autres mouvements indépendantistes, le FNLA, un autre mouvement au nord, et contre l'UNITA au sud. C'est une guerre civile, un bordel de bordel, un bordel au carré, comme aurait dit Amadou Kourouma, mais c'est surtout une guerre est-ouest par procuration. Oui, le MPLA, socialiste, est soutenu par Moscou et Cuba, et l'UNITA par l'Afrique du Sud et les États-Unis. Cette sale guerre, malgré quelques interruptions, va durer, Laurence, 27 années.
La Havane envoie sa jeunesse prêter main forte en Angola. En 15 ans d'engagement, ils sont très nombreux à partir sur le front angolais. Omar Sosa, le pianiste cubain, fait partie de cela.
J'ai pratiquement fait tout le tour de l'Angola, parce que j'étais soldat, un soldat qui jouait de la musique pour les autres soldats. Je faisais mon service militaire et j'ai vu beaucoup de choses. Certaines très belles et d'autres très tristes. C'était la guerre.
Tu comprenais, Omar, les enjeux de cette guerre à laquelle, à ta manière, tu as participé avec l'armée cubaine?
Eh bien, non, pas vraiment. J'étais jeune et naïf. Et je pense, super, on va aller en Angola, allons-y. Je ne sais pas de quoi il retourne. Je tenais les claviers dans cet orchestre intitulé Tributo, hommage. Et en Angola, on essayait de divertir un peu les troupes. Et comme ça, on a été à Mikosi. Et je ne sais pas ce qui nous a pris, on était dingues, on est monté sur le toit du camion militaire et on faisait les marioles. Et je me souviens, le chef du convoi, il nous a dit « Non mais ça va pas, vous êtes dingues ou quoi ?» Moi j'avais 19 ans à cette époque. Vous n'entendez pas ? Alors on tend l'oreille et on entend «
It's the war.
Merde, c'est la guerre. Donc là, on s'est réfugié à l'intérieur du camion. Et un ancien nous a dit
«
Hey les gars, ne remontez pas, on se bat juste à côté d'ici. » Alors on est arrivé, on a apporté de la nourriture pour les troupes, on a joué pour eux. Et puis, on est reparti le lendemain. Sur le chemin du retour, les gens qu'on avait croisés dans la rue la veille étaient morts. Ce jour-là, j'ai compris que c'était pas une blague. Et j'essayais de comprendre ce que tout ça voulait dire. Quand vous vivez ça, vous vous dites vraiment, mais c'est n'importe quoi. Parce qu'au bout du compte, beaucoup de Cubains sont morts en Angola. Et ça n'a pas changé grand-chose. Beaucoup de Cubains sont morts en Éthiopie. Mais à quoi bon ?
Okumono shinguma janangola Ene abokona umabia metwe Oh atunyano imayosuni ya hatuwetwe Okiki halotambula kya owadi
Umakuni mautaze ya makweze metu Ene abokona umabia metue Oh, atunyano imayoso ni ya hatuetue Okiki alotambula kya owadi Umakuni mautaze ya makweze metu Atu mungile se alenga lenga kya Mokumo no jinguma uji sansala Atu mungile se adila dila kya Mokumo no jinguma shanangola
Atumunjile, l'Angolais Santos Junior chantait la détresse des paysans qui fuient leur village menacé par l'avancée des combats. Un refrain qu'il faudra chanter longtemps encore en Angola.
Oui, et les artistes évidemment sont pris dans le conflit. À la capitale par exemple, Luanda, qui est tenue par le MPLA, il ne viendrait à l'idée de personne de chanter pour l'UNITA, c'est ridicule.
Mais oui, mais au sein du MPLA, il y a des dissensions. Et même en 77, deux ans après l'indépendance, une tentative de putsch. Elle échoue, mais la répression, elle, ne rate pas son coup. Partout, dans la capitale et aussi dans les zones qui sont contrôlées par le MPLA, les opposants, qu'ils soient réels ou supposés, sont enfermés ou tués. Arthur Nunes, l'une des plus grandes voix de l'époque, il laisse sa peau. Dommage.
C'était l'Angolais Arthur Nunes sur RFI et c'est avec lui que nous refermons cette plongée dans l'Afrique lusophone des années 60-70, les années des indépendances. Merci Vladimir Cagnolari.
Eh bien, ce fut un plaisir.
Rendez-vous dans 15 ans. Je n'ai plus d'argent.
À la bonne heure. Si, si, vous avez un petit compte épargne sur clé USB, je le fais très bien.
Au revoir, à demain. Sérieux, quoi.
We are going for your friend.
kuru emwenyo kwe onjila ya kaya yondo kubeta ngoshita wape ai
kuyango we konyo kwe kuyango we konyo kwe kuyango we konyo kwe kuyango we konyo kwe
kampa mbele lo kuche kuyango kwenyo kwe kureti kwenyo kwe kuyango kwenyo kwe kureti kwenyo kwe onjila ya kaya yondo kubeta ngoshita wape ai
kuyango we konyo kwe
Musique du monde sur RFI.
We are going to be there.